Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 12 mai 1987.
Celui qui veut. les animaux, ça nous aide à comprendre ce que c'est que le concupiscible. Parce que ça, c'est un état pur. Éduquer le concupiscible par la vertu de tempérance. C'est-à-dire récupérer, hein, comprenez bien, récupérer cette force. C'est une force. Cet amour. Tout amour est une force. Cet amour fondamental à l'égard de la nourriture. C'est quand même le premier amour. Le premier amour, génétiquement parlant. C'est bien évident. Le premier amour que vous avez eu, le premier exercice de votre concupiscence est à l'égard de la nourriture et du lait. C'est pour ça qu'on a à l'égard du lait toujours ou une fringale ou une aversion. Spécialement à l'égard de la crème. C'est curieux ces jours-là. Parce que le premier amour est à l'égard du lait. Lait maternel, ou le lait qui remplaçait le lait maternel, c'est la première concupiscence. Parce que votre première concupiscence n'a pas été à l'égard de l'oxygène dans la respiration. Ça, je crois pas. La concupiscence est à l'égard, en premier lieu, de la nourriture, de la boisson. Et la boisson a commencé en premier lieu. Puis la nourriture. Donc, si génétiquement c'est le premier amour, c'est pour ça que c'est important. Si génétiquement c'est le premier amour, quelle détermination, il conditionne tout l'exercice du concupiscible. Radicalement. Et la vertu nous permet de faire que ce conditionnement ne soit pas une détermination. Parce que pour des quantités d'êtres humains, le conditionnement du concupiscible détermine fondamentalement l'aspect de la vie humaine dans le boire et le manger. La vertu de tempérance fait que le concupiscible devient humain et donc au service d'un amour beaucoup plus fort qui est l'amour spirituel. Parce que c'est une certaine forme d'amour. C'est le vestige de l'amour, si vous voulez. Mais c'est une certaine forme de l'amour. Aimer le bon vin, aimer le chocolat, aimer les friandises, aimer, je ne sais pas ce que vous pouvez aimer, la choucroute, n'est-ce pas? Avec de la bière, ça fait partie de ses rêves. Saint Thomas lui-même, vous savez bien, à la fin de sa vie, quand on lui a dit « Qu'est-ce que vous désirez ?» Et Saint Jean de la Croix aussi. Ça prouve qu'ils avaient un concupiscible sain, S-A-I-N, qui était resté sain. C'est notre réalisme premier, hein, celui-là. C'est le réalisme premier. Alors, la vertu tempérance Oui, mais c'est important. La durée, elle va durer. Et nous devons le discerner, là. Ça fait partie de nos expériences humaines. Et la philosophie éthique va jusque-là. Et si la philosophie éthique ne va pas jusque-là, il lui manque un certain réalisme. Vous voyez, c'est très curieux que chez Platon, vous n'avez pas beaucoup la philosophie de l'aliment. Alors que vous l'avez chez Aristote. Peut-être que dans une éthique religieuse. présente la chasteté. La chasteté est-elle une vertu, saint Thomas? Il est, n'oublions pas, quand vous lisez saint Thomas, tout de suite, vous êtes au niveau de la théologie. Donc ne transposez pas directement ce que dit saint Thomas, mais comme saint Thomas donne très souvent des références à Aristote, donc on voit le passage de l'anthropologie à la théologie. Et dans l'éthique, saint Thomas se sert d'une anthropologie. C'est la métaphysique. Et dans toute la seconda pars, c'est l'anthropologie. Alors voyez simplement ça. Saint Augustin dit, alors que tu devrais donner à ton épouse l'exemple de la vertu, je veux dire de la chasteté, puisqu'elle est une vertu, tu te laisses vaincre au premier assaut. Et tu voudrais que ton épouse fût victorieuse. Éthique à l'intérieur du mariage, la chasteté. Comme c'est important pour nous, en tant que nous devons prêcher sur le mariage. Pour nous, la vertu de chasteté ira jusqu'à l'exigence de la virginité. Quand on a une vie consacrée à Dieu. Le mot de chasteté, voici saint Thomas en tant que théologien, le mot chasteté vient de ce que la raison châtie la convoitise, la concupiscence, qui doit être corrigée comme un enfant, d'après Aristote. Nomen castitatis sumitur ex hoc quod per rationem concupiscentia castigatur. Qui ad modo pueri es refrenanda ut patet per philosophum. Or, la vertu humaine consiste précisément dans la règle imposée par la raison. Il est donc bien évident que la chasteté est une vertu. C'est une vertu qui regarde d'une façon particulière l'instinct sexuel. Aujourd'hui. Et ceci, saint Thomas présente la tempérance, c'est l'article 3, a pour objet propre les plaisirs du toucher, les plaisirs de l'aliment. Si donc il y a lieu de distinguer entre ces plaisirs, il faudra distinguer aussi plusieurs vertus. Prise sous la tempérance. Or, les plaisirs sont proportionnels aux opérations. Mais il est évident que l'usage de la nourriture destinée à la conservation de l'individu est distinct de l'usage de la volupté destinée à la conservation de l'espèce. La chasteté qui règle celui-ci est donc distinct de l'abstinence qui règle celui-là. Vous voyez qu'il y a toute une vision anthropologique qui précise ici, dans la concupiscence ou dans l'appétit sensible, deux domaines que depuis Freud on ne distingue plus. C'est pour ça que c'est important pour nous de voir est-ce que Freud a raison. Ou est-ce qu'Aristote a raison? Saint Thomas est théologien, il s'appuie sur la tradition. Nous devons, nous, à cause de Freud nous oblige d'essayer de comprendre une distinction qui n'est pas toujours commode à bien voir. La distinction entre ce que nous appelons ordinairement l'instinct. Alors là, il y a tout un problème que je voudrais étudier, que je n'ai pas encore parfaitement analysé. Mais je vous le dis, en psychologie, on parle tout en instinct. Je crois qu'au plan philosophique, nous avons un devoir aujourd'hui de bien préciser la différence entre l'instinct et donc, pour bien le préciser, il faut voir à quel moment, au plan psychologique, est apparu instinct. Qu'est-ce que ça recouvre? Les pulsions. L'instinct. Vous savez, ce sont ces mots qu'on emploie tout le temps sans très bien savoir exactement ce que ça veut dire. Et puis, l'appétit naturel. L'appétit naturel est commandé par le point de vue de la finalité. Tout appétit implique un amour. L'appétit naturel, c'est héros. Soin de côté de instinct sexuel. Et c'est là où on voit que l'appétit naturel est lié à la passion, est lié à la connaissance du toucher. C'est le toucher qui est lié de fait à cette jouissance de la nourriture et à la jouissance propre de l'instinct sexuel. Alors, saint Thomas appelle ça l'appétit naturel. Et je crois qu'on doit le maintenir. C'est un terme philosophique. Mais nous devons aussi comprendre le lien entre instinct et appétit naturel. Bien, je crois que l'instinct relève d'une expérience. Le besoin instinctif, ça s'impose à moi. Quelque chose de nécessaire. Et cet instinct, j'allais dire, c'est l'aspect exercice, efficience de l'appétit naturel. C'est abstrait. Et c'est curieux, ça peut être concret. C'est ça qui me semble très curieux. Ce qu'il y a de plus concret, c'est toujours la finalité dans l'ordre de l'appétit. L'aspect du besoin, l'aspect de quelque chose qui s'impose à moi comme nécessaire, c'est quelque chose de plus abstrait. Mais ça, cet avantage, c'est que c'est immédiatement expérimentable. J'expérimente cet instinct, je le sens. L'appétit naturel, c'est quelque chose que vous posez dans l'analyse philosophique. Je crois que c'est la première distinction qu'on doit faire. Et vous y réfléchir. Vous voyez que l'instinct, c'est le besoin. Donc, l'instinct sensible à l'égard de l'aliment et à l'égard du point de vue sexuel sera très lié. Et Freud dira que dans tout instinct, même à l'égard de l'aliment, il y a quelque chose de sexuel. L'instinct pour le lait maternel, pour Freud, il y a quelque chose de sexuel. pour ça, c'est connu que celui qui a une trop bonne table au point de vue de l'aliment et de la boisson, il y aura une propension plus grande vers l'appétit naturel au point de vue de l'instinct sexuel. Celui au contraire qui se modère du côté de l'aliment et de la boisson, donc qui sera tempérant et qui exercera la tempérance, par la tempérance il pourra acquérir la chasteté. Il y a un lien entre les deux, il y a une dépendance de l'un par rapport à l'autre. Il y a un appétit naturel fondamental, c'est celui d'aliment, et c'est d'abord vis-à-vis de celui-là qu'on doit se modérer. Et par là, politiquement, agir sur l'appétit naturel à l'égard de la procréation. Alors, la vertu de chasteté sera cette vertu qui naîtra dans la lutte, comme toutes les vertus, à cause de la propension et de la véhémence que peut prendre le point de vue de l'instinct sexuel, l'appétit naturel à la procréation. Et la vertu de chasteté sera justement de modérer cet appétit lié à la concupiscence, de modérer pour n'user de cet instinct sexuel, de cet appétit naturel, en vue de la procréation, et que pour la procréation. Freud voit avant tout le point de vue du plaisir, et comme le plaisir est individuel, il regarde le point de vue de l'instinct sexuel en premier lieu, du point de vue jouissance individuelle. Et donc la perspective est tout à fait changée. Et alors, au point de vue de l'éducation, c'est complètement changé. Vous voyez bien. Parce qu'on ne regarde plus la finalité. On ne regarde plus le besoin. Et c'est en ce sens-là que certains psychologues diront « Mais oui, il faut satisfaire ses besoins, c'est beaucoup plus simple. » Comme vous, de fait, vous satisfaites. On satisfait les besoins de la nourriture. On doit satisfaire les besoins sexuel. Tandis que si vous maintenez la lutte, vous allez maintenir un refoulement. Et alors ce sera terrible, l'imaginaire va l'emporter, et vous serez constamment devant ça. Et c'est vrai que ça existe des personnes humaines qui sont tellement pris par le point de vue sexuel, et le point de vue imaginaire du point de vue sexuel, c'est qu'ils sont encombrés de tout ça. Alors psychologiquement, on dit, oh, voyez, ça aurait été bien plus simple de satisfaire immédiatement l'instinct sexuel au niveau personnel pour ne pas avoir ces refoulements imaginatifs. Vous voyez, comme on arrive à des positions qui sont hélas aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle au plan philosophique, parce que ça fait partie de l'éthique, qui aujourd'hui sont constantes, même chez les chrétiens, parce qu'ils se placeront au point de vue psychologique, du moins soi-disant point de vue psychologique, en disant « mais oui, il vaut mieux ça, il vaut mieux tout de suite apaiser l'instinct que de lutter. » Alors vous voyez, qu'est-ce que dira le philosophe? Je dirais que les vertus s'acquièrent toujours dans la lutte, et que ce terrain soit le terrain où les luttes sont plus fortes, c'est normal. C'est plus sensible, puisque ça touche notre corps. Vous voyez, dans l'aliment, il y a un aspect extrinsèque à nous. Dans le point de vue de l'instinct sexuel, c'est immanent à nous. Et c'est pour ça que c'est si fort, parce que nous le portons en nous. Tandis que dans l'instinct par rapport à la nourriture, c'est quand même toujours quelque chose d'extrême. c'est par rapport à un autre, puisque ça implique l'union sexuelle de deux. C'est très vrai. Mais il y a aussi la possibilité de satisfaire individuellement ce besoin dans une jouissance érotique, ce qu'on appelle la masturbation. Et ceci, c'est donc détourner l'appétit naturel de sa finalité propre. Sa finalité propre étant le point de vue de la procréation, alors que là, c'est uniquement la jouissance individuelle. Donc, par le point de vue de la masturbation, vous détournez un appétit naturel de sa propre finalité. Et vous augmentez le poids de l'imaginaire. Vous alimentez votre imaginaire. Alors que si vous luttez progressivement, vous essayez de retrouver le point de vue normal de l'appétit naturel ordonné à la procréation. La vertu de chasteté est donc une vertu nécessaire. Je dis bien une vertu nécessaire pour que la personne humaine domine son corps. Quand la personne humaine ne domine pas son corps, l'individu fiche le camp. Vous voyez bien ce que je veux dire? Il y a une séparation entre individu et personne. C'est pour ça que c'est si grave de séparer individu et personne. Parce que vous direz, en soi, ça n'a rien à voir avec la personnalité. Ah, pas du tout. Vous ne pouvez être une personne humaine avec un peu de volonté que si vous acquérez la vertu de chasteté. Et la vertu de chasteté maintient la dignité de la personne humaine jusque dans sa sensibilité, jusque dans son corps, jusque vis-à-vis de cet instinct sexuel. Dominer cet instinct, arriver à le dominer par la vertu de sainteté. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça c'est très important pour nous, vous comprenez que c'est la petite vertu de chasteté, hein, la petite vertu de chasteté, elle n'est pas une vertu cardinale, c'est une vertu annexe à la tempérance. Et je crois qu'on a tout à fait raison de dire que la vertu de chasteté est une vertu annexe à la vertu de tempérance. La grosse vertu de tempérance, ça tient la route. Et quand la vertu de tempérance tient la route, on a beaucoup plus de facilité à acquérir la vertu de chasteté. C'est la voie normale. Quelqu'un qui n'a pas de, qui ne cherche pas du tout à acquérir la vertu de tempérance, je crois, aura une peine énorme à acquérir la vertu de chasteté. La voie normale, au plan philosophique, c'est la vertu de tempérance. C'est pour ça que, vous voyez, une vie régulière, où de fait, on acquiert progressivement une vertu de tempérance, aide énormément. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un combat propre à l'acquisition de la vertu de chasteté. Autrement dit, c'est pas suffisant d'acquérir la vertu de tempérance. Il faut acquérir en plus la vertu de chasteté. Alors, ceci est quelquefois très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que on a pu, dans sa jeunesse, acquérir de mauvais plaies. On n'a pas été éduqué dans ce domaine. Le domaine de la tempérance, on éduque encore. Mais le domaine de la chasteté, pas tout. Maintenant, beaucoup plus. Maintenant, c'est l'exagération. On en parle tout le temps. Mais avant, c'est pas si vieux. On n'en parlait pas. C'est un domaine qu'on cachait. On parlait pas. Alors, à ce moment-là, il pourrait très bien se faire qu'il y ait de mauvaises habitudes, comme on disait. Et de mauvaises habitudes, on savait très bien ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'il y avait des plis qui se créent au point de vue psychologique, alimentaire. Dans une certaine éducation, c'est comme ça. Et ça existe encore comme ça. Hein? Faut pas l'oublier. Dans certains milieux, c'est comme ça. Dans des milieux qu'on dit aujourd'hui purement laïques, on favorise presque, de façon invraisemblable. Et on voit pas qu'en faisant ça, on empêche ces individus de devenir des personnes. C'est peut-être ce qu'on cherche du reste. Il y aura tout le temps une fragilité, une faiblesse qu'on doit reconnaître. On doit la reconnaître, cette fragilité. Si on l'a, si on a été mal aiguillé, on n'en peut rien. Un gosse de 10 ans, que vous, il n'en peut rien. Un gosse de 10 ans, même de 13 ans, de 14 ans, il ne peut pas grand-chose. C'est un domaine fou dont on ne voit pas et on n'aime pas de regarder avec limpidité. Alors, quand il y a des plis mauvais, de mauvaises habitudes, la lutte sera plus forte. C'est bien évident. Mais s'il faut toujours voir qu'il est toujours possible de rééduquer, ça exige une plus grande lutte. Et si on a été bien éduqué, tant mieux. Mais n'oublions pas que la vertu n'est pas naturelle, elle est toujours acquise. Et donc il est normal de connaître certaines luttes à certaines périodes de la vie. Un certain printemps, où la sève pousse plus. Alors à ce moment-là, c'est normal